Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, cher monsieur le chanoine, notre cher sous-diacre, chers enfants de cœur, chers fidèles, lorsque Jésus opère un miracle, c'est toujours pour signifier quelque chose. Il ne redonne pas seulement la vie pour redonner la vie. Il ne guérit pas seulement pour guérir ou pour soulager. Mais il va plus en profondeur pour montrer qu'il est lui-même la vie, pour manifester qu'il peut guérir. Et en réalité, il redonne la vie comme Dieu sait redonner la vie. Il guérit comme Dieu sait guérir. C'est pourquoi chacun de ces miracles revêt un caractère, je dirais, théologique. La résurrection du fils de la veuve de Naïm est bien une réalité visible. Elle est aussi un rappel, une révision de tout l'Ancien Testament. Et à chaque miracle, Jésus nous fait donc réviser ce passage du prophète Isaïe que nous pouvons lire et méditer au chapitre 35. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Alors les yeux des aveugles verront et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ils reviendront ceux que le Seigneur a sauvés. On voit donc ici la gloire du Seigneur, la divinité de Jésus. Les malades sont guéris, les morts ressuscitent et ils reviennent, car ils sont rachetés. Le but de ce miracle est donc de montrer la gloire du Seigneur. Les malades sont guéris, les morts ressuscitent et ils reviennent, car ils sont rachetés. Le but de ce miracle est donc de montrer sa gloire. Le salut est effectué. C'est la leçon qu'enseigne Jésus. Son but est de manifester le mystère de Dieu, son enseignement est de faire comprendre que le rachat est accompli. Toutefois, ce salut destiné à tous doit se faire progressivement, en douceur, car il y a des médecines qui tuent si on les prend d'une manière trop radicale. C'est la raison pour laquelle le Seigneur est toujours discret dans sa manière de faire. Souvent, il interdit même d'en parler, mais ça ne suffit pas, les gens parlent. Du temps de Jésus, il y avait des bavards, vous voyez, ça n'a pas changé. Observez comme Jésus procède ici. Il est tout d'abord pris de compassion pour cette mère, cette maman, mère d'un fils unique. Lui aussi, il sait ce que ça veut dire d'être fils unique. Cette mère, les pères de l'Église nous disent qu'elle symbolise l'Église qui accompagne l'humanité touchée par la mort du péché tout au long de cette existence terrestre. L'Église qui fait rencontrer à l'humanité la grâce de la résurrection. L'Église, notre mère, vous savez, un certain nombre d'hommes d'Église, en voyant le désastre, en voyant les péchés de l'homme, sont morts de chagrin. On suppose que le cardinal Caffara, évêque émérite de Bologne, celui qui était à l'origine des Dubia, est mort de chagrin de la situation de l'Église. Don Roy, père abbé de Foncombeau, dans la période de la crise liturgique, est mort à Rome de chagrin. Oui, de chagrin. Voilà des âmes qui sont capables de sentir comme le Christ le péché de l'homme est capable de donner leur vie pour les sauver. Les miracles de Jésus sont réalisés dans une grande discrétion et Jésus révèle ce qu'il est progressivement. D'abord au peuple élu par Dieu, à Israël, ensuite seulement aux nations. Son moyen habituel pour montrer que le salut est déjà à l'œuvre, ce sont les miracles. Et le miracle est toujours quelque chose de concret. Jésus redonne la vie à l'âme par le corps et il le fait d'autorité. Il s'approche, il touche le cercueil. Les porteurs s'arrêtent et ils disent, jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Et aussitôt, le mort se leva. On voit que Jésus affectionne dans les évangiles cette manière de faire. Il sauve très peu à distance. Que deux fois dans les saints évangiles, on voit que notre Seigneur guérit à distance. Tous les autres miracles sont des miracles où notre Seigneur eh bien, agit à proximité, d'une manière physique. Il touche, il regarde. Et on voit dans cet évangile toute une mise en scène. Il touche le cercueil, rend le fils à sa mère. Tout est reçu de lui. Tout est reçu du Christ. On le voit aussi dans la liturgie catholique, notamment lorsque nous pouvons solenniser les messes. Lorsque nous donnons le baiser de paix, ce n'est pas simplement le prêtre qui donne le baiser de paix au diacre, qui le donne au sous-diacre, qui l'apporte au clergé lorsqu'il y en a. C'est le Christ qui donne la paix au prêtre. Le prêtre baise l'autel qui représente le tombeau du Christ pour du Christ recevoir la paix et la donner. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas une partie de pique-bisou, comme on peut voir parfois. Mais il y a toujours un grand danger d'une religion lointaine et cérébrale où on s'arrange avec un Dieu qui ne dérange jamais. Et il ne faut pas tomber dans cette erreur, dans cette tentation, mais bien avoir le sens du Christ dans notre vie. Jésus est pris de compassion, il montre par là sa nature humaine, il opère le miracle, il montre par là sa nature divine. Car seul Dieu est maître de la vie et de la mort. Il nous faut aujourd'hui l'enseigner. Ce miracle opéré redonne la foi, tous disent, Dieu a visité son peuple. Grand est le prophète, il est plus qu'un prophète, il est fils de Dieu. La foi n'est totale que si elle est dite, confessée, proclamée. Le chrétien ne saurait être un clandestin, il proclame la foi qui habite son âme. Le chrétien qui se rend imperméable à une partie de la foi ou qui cache qu'il est chrétien est un chrétien mort. Et la question sous-jacente, quid de notre attitude dans notre milieu de vie, dans notre environnement? Comment nous sommes chrétiens? Parfois, nous avons peur de l'être, peur de le montrer, comme si nous étions morts. Et c'est quelque chose de très français. Vous allez dans d'autres pays, on a moins peur de parler comme nous sommes. On n'est pas chrétien le dimanche ou dans un milieu restreint, familial, et dans les activités plus mondaines ou plus de la vie de tous les jours, sociale, que sais-je encore, on oublie parfois d'agir en chrétien. Et nous devons répondre avec tout ce que nous sommes. Nous sommes chrétiens parce que nous sommes baptisés, enfants de Dieu, et nous devons donc agir en enfants de Dieu. Cette page d'évangile est une véritable mise en scène. Et à travers cette mise en scène, eh bien, Jésus nous invite aussi à nous mettre sur le terrain. À travers cette mise en scène, il nous invite à mieux l'appréhender, parce qu'il nous montre que Dieu n'est pas un Dieu distant, un Dieu lointain, un Dieu sans visage, parce que Le visage de Jésus nous montre celui de Dieu. C'est à la fois quelque chose de merveilleux et qui peut en même temps faire peur. Il est facile de négliger une idée, mais il est plus difficile de détourner les yeux d'un regard pareil. Désormais, notre situation en regard de Dieu est celle d'un face-à-face. Et dans un face-à-face, il se passe de belles choses. Mais c'est toujours délicat. Souvenez-vous, pour ceux qui sont mariés, votre déclaration d'amour n'est pas facile, c'est délicat. Ça se prépare, et puis finalement, quand on l'a fait pas forcément comme c'était prévu de le faire. Moi, je me souviens de ma déclaration d'amour. Moi aussi, j'ai fait une déclaration d'amour. J'ai un peu triché. J'ai évité le face-à-face. C'était avec ma mère. Je lui ai dit, « Maman, l'année prochaine, je rentre au séminaire pour devenir prêtre. » C'était en voiture. Elle a crié, « Ah, non !» Et elle a pilé, et on aurait pu avoir un accident de voiture. Donc, toujours garder le contact face à face, c'est toujours mieux. Bref, Jésus nous montre que Dieu a pris contact avec nous, instaurant un face-à-face. Il le montre aussi dans le salut qu'il nous propose en lui et après lui. C'est l'Église qui nous conduit sur le chemin de la résurrection. Les sacrements et les sacramentaux sont des réalités qui achèvent en nous ce que Jésus a inauguré, une résurrection intérieure. Et si les miracles de Jésus sont si physiques, c'est aussi pour nous faire comprendre que vivre en chrétien ne saurait se concevoir sans une forte acceptation du monde et du corps. Lavé où il est, nourri, instruit, pardonné par un timbre de voix humain, touché par des signes, des symboles, des gestes, des paroles, toutes ces choses si physiques mais tellement spirituelles sont l'Église et les sacrements et les sacramentaux. Invitez vos prêtres à bénir vos maisons. Ne faites pas de prière en famille sans vous signer avec de l'eau bénite. C'est des sacramentaux qui mettent la vie de la grâce et qui permettent aussi eh bien, de réparer nos péchés véniels. Ce ne sont pas tout cela que des panneaux qu'on peut apprendre machinalement lorsque nous préparons notre code de conduite pour bien conduire. C'est plus que cela. Ce sont des signes efficaces de salut, des réalités visibles de salut. Ce n'est pas rien. Et c'est pour cela que Dieu nous a créés avec un corps qui vit et qui souffre, qui a faim, qui a froid, qui a chaud, qui aime et qui vibre. Et tout cela, on va en faire l'expérience tout à l'heure pour ceux qui viendront au pèlerinage de rentrée à Pibrac. Je vous y attends. Votre pasteur vous y attend. Jésus vous y attend. Sainte-Germaine, qui est venue vous visiter l'an dernier, vous y attend aussi. D'ailleurs, au ciel, notre salut sera complètement réalisé avec le corps dûment ressuscité, glorifié, porté à son maximum. C'est quelque chose d'extraordinaire. Si nous habitions déjà sur la terre à avoir un corps uni à notre âme, dans la grâce, notre corps sera encore plus glorifié, encore plus beau. Telle est notre vocation à tous, mes chers amis, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.